Bon, je sais pas si vous avez eu l'impression qu'il y avait une suite entre ce que nous avons dit les deux premières fois. Dans mon esprit, il y en avait une, mais il n'est pas évident qu'elle soit passée dans les faits. Cette troisième séance s'articule sur les deux autres de la façon suivante. On avait vu depuis le cheminement du désir, d'une part le cheminement du désir, depuis Ève et les descendants d'Adam, et la façon dont la culpabilité qui était liée au désir était bouchée, était colmatée par différents processus, par différentes démarches. Nous avions vu chez Ève et chez Adam le désir comme étant une tendance à restaurer une plénitude perdue, et la culpabilité à rétablir une identité. Rétablir une identité, ça veut dire recommencer un système qui permette à l'homme, atteint dans son noyau central, dans son narcissisme, on avait appelé ça, de lui permettre d'avoir une bonne opinion de lui-même. Autrement dit, de nouveau, lui permettre de s'aimer lui-même, de s'accepter. Sinon, il tombe dans la dépression. Et on n'a pas le temps d'envisager ce problème-là aujourd'hui, l'aspect de la dépression chez les hommes ou chez les chrétiens. Mais c'est ça qui menaçait Adam. Et on a vu de la façon dont Dieu s'y était pris par un moyen, en rencontrant sa culpabilité, en rencontrant son manque et en rencontrant aussi son leurre ou son illusion. Nous avons vu aussi que si Dieu avait opéré d'une certaine façon pour répondre à la situation avec Adam, les descendants de Caïn et Caïn lui-même ont procédé d'une autre façon pour colmater cette brèche. Dieu avait répondu par un sacrifice. Caïn a tenté de répondre par autre chose que le sacrifice qui avait été prévu au niveau de sa fonction. Si bien que, de fil en aiguille, on avait vu Caïn crée non seulement les moyens de boucher ce trou, mais ensuite ses descendants avaient été contraints de fabriquer une nouvelle créature, c'est une culture, autrement dit de reproduire un monde au niveau de leur nouvelle vision des choses. Et nous verrons, si nous avions continué de voir cette évolution, nous verrions les mêmes processus s'opérer à propos de Nimrod et de Babylone, de Babel. En effet, Babylone se caractérise par trois points. Ils ont construit une ville, une tour, et ils se sont fait un nom. Et faire la ville, nous avons vu à quoi ça correspondait chez les descendants de Caïn, c'était se créer un univers dont ils maîtrisaient absolument et les dimensions et les effets. La tour, c'était la religion, cette tour qui aille jusqu'au ciel. Et le nom, c'était se retrouver une identité que eux se donnaient à eux-mêmes. Ils se donnent un nom. Donc, toute l'histoire à partir de Caïn nous sont un échantillonnage des tentatives individuelles et collectives de faire face à ce désir béant, à cette béance du désir et à cette culpabilité sous-jacente, culpabilité ou angoisse. On a vu les mécanismes de défense contre l'angoisse. Ce que nous voulons voir aujourd'hui, ça c'est une récapitulation, c'est la façon dont la rédemption, dont l'intervention de Dieu au niveau de la rédemption change au niveau de l'homme ses processus. Parce qu'en effet, quand Dieu est intervenu avec le sacrifice qui a à la fois versé le sang et couvert la culpabilité d'Adam, c'était un système complet. Le système de Caïn et de ses descendants, dans un sens, c'était la réponse de l'homme, c'était aussi un système complet. Et ce dont il faut prendre conscience, c'est que les chrétiens, parfois, ont la possibilité, enfin les hommes en général, y compris les chrétiens, ont donc la possibilité de fonctionner à trois niveaux. Ou bien en adoptant le système complet qui est offert par Dieu, ou bien de se tourner carrément vers le système complet qu'offre la culture, ou bien quelquefois d'hésiter entre les deux, prendre un petit peu dans le système que Dieu leur propose et prendre un petit peu dans la culture. Et c'est précisément peut-être justement le problème dans lequel nous nous situons en tant que chrétiens. Nous sommes à cheval entre un engagement profond avec Dieu, c'est ce que nous avons vu avec le sermon sur la montagne, et à mi-chemin aussi de tous les petits procédés humains pour colmater l'angoisse et pour colmater le désir. Nous sommes loin de dire comme dans le psaume, et en chantant et en dansant, ils diront « Toutes mes sources sont en toi ». On est bien loin de ça, c'est un programme, un projet ou une réalisation prophétique. Ce que je voulais essayer de voir aujourd'hui, c'est comment l'intervention de la rédemption et l'intervention de l'esprit avec la rédemption va changer une situation, va changer une façon de voir. Et en voici un exemple tout à fait simple. Vous connaissez tous l'histoire des pèlerins d'Emmaüs. Les pèlerins d'Emmaüs connaissaient toute l'histoire de Jésus, ils avaient vécu avec lui au moins pendant 3 ans, enfin ils en avaient eu des échos. S'ils n'avaient pas vécu avec lui 3 ans, ils le connaissaient bien. Et quand Jésus les rencontre après sa résurrection sur la route d'Emmaüs, ils sont capables de dire toute l'histoire. Ils ont tous les éléments historiques des événements. Ils ont toute l'histoire événementielle. Mais cette histoire pour eux ne fait pas de sens. Et ils arrivent à Emmaüs, c'est à peu près 12 kilomètres de Jérusalem en gros. Ils sont fatigués, c'est le soir. Et ils le disent. Il dit, le soir abaissé, reste avec nous. C'était ça leur constatation, et des événements, et de la situation. Et quand Jésus leur interprète, leur ouvre les Écritures, il les dit, il leur ouvrit dans toutes les Écritures les choses qu'ils concernent, ils commencent à comprendre, l'histoire prend un sens. Et quand Jésus s'est révélé à eux en tant que personne, c'est non plus en tant que sens, mais en tant que personne, alors les choses changent radicalement. Il y a toujours 12 kilomètres entre Emmaüs et Jérusalem. La distance n'a pas changé. Mais pour eux, ils peuvent repartir et la distance n'a pas le même sens. Ce qu'ils avaient dit avant, le jour a baissé, on s'arrête, maintenant c'est fini, eh bien c'est transformé, ils voient les choses autrement et ils peuvent repartir et ils font le chemin sans y penser. C'est ça, c'est pas l'univers qui est transformé, mais c'est la façon de voir les choses. Et, et c'est un exemple de ce que je pense, de ce qu'on a vu. Et je voudrais qu'on voit la transformation qu'opère la rédemption, la connaissance de Jésus-Christ, au niveau des liens affectifs, ça fera 4 parties, les liens affectifs, le désir de puissance, l'argent, ce sont des extraits, et l'idéal de vie. Pour étudier l'évolution, ou plutôt le remaniement, ce que j'ai appelé ce paragraphe le remaniement de la personne, je me suis inspiré de l'exemple de l'apôtre Pierre. Nous connaissons tous la façon dont Pierre a rencontré Jésus. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Il commence dans l'évangile de Jean, à son baptême. Il est amené par son frère. Il rencontre Jésus au Jourdain, où il était baptisé. Et puis il semble qu'il y ait une sorte de période où il s'est séparé de lui, et Jésus le retrouve dans son pays, à Bethsaïda, près de Capernaum. Bethsaïda et Capernaum sont 2 villes voisines. Et là, il l'appelle. Quand nous lisons le texte, dans Jean, nous voyons que Pierre a voulu suivre le Seigneur, c'est lui qui a essayé. Dans le deuxième cas, c'est Jésus qui l'appelle, « Viens, suis-moi ». Les choses ont déjà changé. Dans le premier épisode, c'était le désir de suivre. Dans le deuxième, c'est l'appel pour suivre. Et nous voyons, c'est la comparaison du récit de Jean et du récit de l'évangile de Marc. Il est intéressant de penser que l'évangile de Marc a peut-être été écrit sous la dictée de l'apôtre Pierre. Ce serait celui qui se rapprocherait le plus de sa pensée. Mais alors, justement, une fois ces deux événements successifs rassemblés, le désir de partir et l'appel pour partir, c'est pas la même chose. Il faut partir, il faut passer à l'acte. Et là, c'est là qu'on rencontre les problèmes, Et là où il faut que les choses se transforment, parce que Pierre a une famille, il est marié et il a une belle-mère. Et on peut bien penser qu'une femme qui ne partage pas nécessairement toutes les visions religieuses ou les visions philosophiques ou les visions matérielles de son mari, pouvait mettre un frein au départ. Il y a une tension entre suivre son maître qu'il aimait, qu'il avait appris à aimer, et puis son devoir familial. Or là, il y a un événement symptomatique qui va changer la vie de Pierre. Si vous lisez dans le détail, on peut faire quelques hypothèses, mais je pense qu'elles sont vraies, sur ce qui s'est passé. La belle-mère de Pierre est malade. Et on peut dire que la femme de Pierre pouvait lui dire « Tu ne vas pas me laisser à la maison toute seule avec ma mère malade. » C'était encore un élément de plus, explicite ou implicite, pour que Pierre ne parte pas. Mais Jésus était là, et il a guéri la belle-mère de Pierre. Il a dit en clair, parce que les actes de Jésus, nous avions cité ce passage des Hébreux, que Dieu, après nous avoir parlé de plusieurs façons à travers les pères et les prophètes, en ces temps-ci nous a parlé en fils. Et le fils, langage du père, va parler en guérissant la belle-mère de Pierre. Et c'est d'autant plus symptomatique que ce n'était pas sa mère à lui. Et si nous regardons la façon dont Jésus guérit la belle-mère de Pierre, il la touche. Nous savons psychologiquement toutes les barrières qui existent. Nous avons parlé du problème de toucher, du problème du corps. Nous le reverrons d'ailleurs la fois prochaine, combien c'est ritualisé dans les cultures. Eh bien là, Jésus va toucher la belle-mère de Pierre, ce que Pierre n'avait peut-être jamais fait lui-même. Il a vu que peut-être Jésus aimait sa belle-mère plus que lui. De toute façon, il l'a guérie. Et je pense que ce geste de Jésus qui va jusqu'à toucher la belle-mère de Pierre, qui n'a pas eu peur de le faire, va se voir plus tard. Quand Pierre guérira une personne dans les actes, il la prendra aussi par la main. Il aura pris ça, il n'a pas peur de toucher. Il n'a plus peur de toucher les gens et d'aller jusqu'à là, jusqu'à ce contact-là. Donc nous voyons dans cet événement un tournant dans la vie de Pierre sur la signification du service, de servir Jésus-Christ, comment lui prend en charge tous les liens qui peuvent rester derrière. Ils sont englobés. Autrement dit, servir Jésus-Christ, ça ne veut pas dire exclure les autres. Ils sont pris en charge, le Seigneur prend en charge tous les problèmes de cet ordre-là. Nous avons donc successivement l'appel, les résistances à l'appel, la résolution de ces résistances, mais il existe encore quelque chose, il y a une interrogation. Toutes les fois qu'il y a un départ, qu'il y a une séparation, il y a forcément une rupture. Qui dit rupture dit perte, et qui dit perte dit deuil. Toutes les ruptures dans la vie sont toutes symptomatiques de la rupture première, et se réveille cette espèce de vieil esprit d'abandon. Vous savez très bien que quand on part, même pour quelques jours, et a fortiori pour un temps un peu long, à une certaine distance, tant qu'on pense au départ, à une certaine distance du départ, qu'il est au niveau du fantasme, si vous voulez, il n'y a pas de problème, tout se passe bien. Mais dans la réalité de la séparation, sur le quai de la gare, au départ du train, au départ du bateau, au départ de l'avion, ou quand on s'éloigne, et les larmes jaillissent parce que ça soulève des émotions beaucoup plus profondes. On n'est pas au niveau des choses calculées, mais au niveau du jaillissement de l'inconscient, de la perte, de l'abandon primitif, de l'abandon fondamental. Et c'est à cette interrogation-là, qui peut venir une fois le départ réalisé, les obstacles franchis, que nous avons ces deux passages de Marc 3 et de Marc 10, Marc 3, 31-34. Voilà. Alors, ses frères et sa mère donc viennent et se tiennent dehors, et ils l'envoyèrent appeler, et la foule était assise autour de lui, et on lui dit, voici ta mère et tes frères, là dehors te cherchent. Et il leur répondit, disant, et qui est ma mère, et qui sont mes frères? Et regardant tout autour de ceux qui étaient assis autour de lui, tout alentour ceux qui étaient assis autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fera la volonté de Dieu, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Autrement dit, Dieu ne prend, c'est un principe général de la Bible, Dieu ne demande pas une séparation pour la laisser par un vide, il la comble. Et ça, c'est le premier enseignement qu'il donne à Pierre. Au niveau d'une peur, de la peur du vide, il dit, si tu perds peut-être, si tu as l'impression ou l'illusion de perdre ta famille, je suis ta famille, et celui qui fait la volonté de mon père est ma famille. Nous avons un peu le même passage dans Marc 10, parce que je pense que c'est une chose qu'il faut prendre en considération. Nous avons pu prendre une décision une fois, mais ça ne veut pas dire que nous ne reviendrons pas sur le souci que nous a causé cette décision et que nous ne cesserons périodiquement de nous poser des questions. Et Jésus le sait très bien. Et dans Marc 10, 28-29, il redit un peu la même chose. Et Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. » C'est une interrogation indirecte. Il ne dit pas tout ce qu'il pense. Jésus le sait. Il lui dit, « En vérité, je vous dis, s'il n'y a personne qui ait quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, et là, le texte que j'ai ajoute entre guillemets « ou femme », autrement dit, tous les textes ne donnent pas la même leçon. « Ou femme », c'est l'évangile de Marc, c'est-à-dire celui qui reflèterait la pensée de Pierre. « Ou enfant, ou champ, pour l'amour de moi et pour l'amour de l'évangile, qui n'en reçoivent maintenant, en ce temps-ci, 100 fois autant, maison, et frères, et sœurs, et mères, et enfants, et champs, avec des persécutions, et dans le siècle qui vient, la vie éternelle. » Nous voyons donc le grand principe de l'appel de Dieu et du service, c'est qu'il n'enlève jamais rien sans compensation. Il ne prend rien, il donne, autrement dit, il substitue. C'est une chose que nous verrons souvent. Si vous réfléchissez à l'éducation des enfants, nous en parlerons demain à propos de modèles de croissance. C'est toujours ce que nous faisons, ou instinctivement, ou bien même la vie se charge de le faire. Quand un enfant se met en colère, par exemple, ou qu'il manipule un objet qui vous appartient, dont vous voulez le séparer, vous ne lui arrachez pas des mains, parce que vous savez très bien que ça va être une catastrophe, ça sera pire qu'avant. Alors vous lui tendez autre chose. Alors il le prend, et vous lui prenez ce qu'il ne doit pas toucher parce que ce n'est pas adapté à son cas. Dieu fait la même chose avec nous. Il ne nous arrache pas les choses des mains, il nous donne autre chose. Et c'est là où on voit la différence entre notre pensée, qui est de type normatif, c'est-à-dire il faut, on doit, et la pensée de la foi, la pensée de Jésus, et qui est une praxis, une pensée, dirons, concrète. Elle est au niveau des objets, au niveau des situations, au niveau des personnes. Ce n'est pas au niveau des normes, des lois. Nous voyons donc cette évolution de l'institution de l'appel, les obstacles à l'appel, la résolution des obstacles à l'appel, la mutation des objets. Et finalement, le service. Les interrogations continuent jusqu'à la fin, qu'on se rassure, et jusqu'à la fin, il y a des réponses. Le deuxième point que j'avais proposé d'aborder, vous voyez, j'ouvre un peu une perspective, le deuxième point, c'est le désir de puissance. Nous avons vu dès le jardin d'Éden que c'est une des choses qui tourmentait le plus les hommes, c'était d'être comme Dieu. Et nous avions vu que cette pensée-là, c'était introduite dans la pensée de l'homme à travers une interprétation erronée, et une fausse interprétation du désir. Ève désirait quelque chose, et d'une sorte de psychothérapie mensongère, Satan lui dit ce que tu désires, ben c'est très simple, voilà, c'est d'être comme Dieu, tu seras comme Dieu. Effectivement, derrière être comme Dieu, être son Dieu, il y a toujours le désir de puissance, qui est l'envers de la faiblesse, du sentiment de faiblesse de l'homme en tant que créature. La créature étant soumise, étant dépendante, se sent faible. Celui qui est soumis, celui qui est petit, se sent toujours faible. On a vu les dimensions de la blessure narcissique. Et ce désir de puissance déclenche toujours une agressivité chez ceux, parce qu'elle se fait toujours au détriment des gens, ou vis-à-vis de ceux qui le voient sans y participer. Et c'est précisément les choses qui se sont passées, qui se sont révélées au sein du groupe des disciples. Nous avons vu que, enfin, on n'a que seulement quelques exemples, leur existence, l'existence du groupe, est simplement illustrée de quelques points. Il a dû y avoir sûrement des événements du même genre. Nous avons vu qu'ils se disputaient pour avoir la première place, ou maintenant ou plus tard. Et même une fois, la mère, on a fait intervenir la mère pensant qu'une mère aurait plus de poids auprès de Jésus pour obtenir ce qu'il voulait, la mère des fils de Zébédée. Donc leur désir, c'était d'être bien placé, si possible, un petit peu au-dessus des autres. On n'est jamais à l'aise quand on est en bas. Pourquoi? On a vu quelques raisons avant. Et c'est là le problème, ce désir de puissance, et qui est une lutte contre un certain état de créature, l'état de créature, l'état de dépendance, qui correspond à la fragilité et qui renvoie à l'angoisse de la mort, crée toujours un malaise qui se traduit par de l'irritation. Parce que celui qui désire le pouvoir, qui désire avoir l'autorité, est un accusateur ou réveille chez les autres la même angoisse. Alors c'est à n'en plus finir. Quand vous avez dans un groupe un mouvement de cet ordre-là, tout le groupe est saisi par une certaine forme d'angoisse qui les ramène à leur manque, à leur désir, à l'incertitude de leur personne. Et c'est ce que nous voyons dans Marc 10 au verset 37. Il lui dit, raccorde-nous que nous soyons assis l'un à ta droite et l'un à la gauche dans la gloire. Et Jésus leur dit, vous ne savez ce que vous demandez. La réponse à ce désir de puissance, Jésus ne leur donne pas quelque chose cette fois-ci en échange. Il leur montre simplement, il leur dit pas, il leur montre l'inutilité ou le leurre que représente ce désir. Et il le montre à travers lui. Il est très symptomatique que dans le chapitre 13 de Jean, dans l'évangile de Jean, on ne parle pas du tout de la scène, du souper dominical. Il n'en est pas question, ou de façon allusive et de façon allégorique. Par contre, il y a une chose qui a frappé Jean, c'est qu'au moment du souper, Jésus a mis ses vêtements de côté et il a lavé les pieds de ses disciples. Autrement dit, il leur montre que lui, maître, n'a pas peur d'être en bas. Parce que derrière le désir de dominer, il y a la peur. Le désir de dominer, d'être chef, nous avons vu ça dans Lémec, nous aurions pu voir ça dans Némrod. Le désir de dominer est juste l'envers ou la compensation de la peur de n'être rien. Et ce n'est pas une question simplement, une métaphore, c'est au niveau inconscient profondément, la peur de la mort. Être dessous, c'est mourir. Et quand le système est mis en question, on a l'impression qu'on disparaît. C'est pour ça qu'on est quelquefois étonné de la réaction des gens qui sont soumis à une discipline. Et le même phénomène se produit dans la réaction homme-femme. Le fait d'être soumis à quelqu'un d'autre est toujours vécu comme une agression au niveau du noyau même de la personnalité, est toujours vécu comme une destruction. On pourra peut-être entrer dans les métaphores de cette angoisse de mort et de morcellement demain avec les modèles que nous aborderons. Et c'est ça qu'il faut voir. Que derrière le désir de prendre une place supérieure, de commander à l'autre, c'est une façon d'échapper à son angoisse de mort, et que cette angoisse de mort est peut être totalement insupportable. Et c'est pas du tout une question, simplement un problème de classe sociale, si vous voulez, un problème d'apparence ou un problème au niveau du discours. C'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça et quelque chose d'inconscient. Et c'est pour cette raison même, comme c'est au niveau de l'inconscient, c'est pas un problème qui est accessible par le discours, par les mots. Par contre, ce problème-là est accessible par l'acte, par l'exemple. C'est pour ça que Jésus ne dit rien, sauf répondre aux questions que suscite sa démarche. Et on pense pas assez à l'atmosphère qui a régné dans ce dernier souper quand Jésus donne la scène. On en a une figure un peu idyllique, surtout à travers les peintures de la Renaissance italienne, où on a une sorte d'ordonnance parfaite qui donne une impression d'harmonie et de sérénité. Or, il régnait une irritation sourde et une amertume chez les uns et les autres. C'est pour ça qu'en même temps, au moment où Jésus fait la scène, certainement avant, il est obligé de traiter ce problème-là. Nous savons qu'il y a d'autres passages qu'il montre dans les Écritures, ce problème de l'amertume, de l'agressivité, de l'hostilité des uns avec les autres doivent être réglés avant la participation à la scène, qui est l'entrée dans le sanctuaire sur le plan spirituel. Nous avons ce passage qui est bien connu dans Matthieu, où il dit « Avant d'apporter ton don à l'autel, si ton frère a quelque chose contre toi, va et réconcilie-toi avec lui. » Et vous regardez comment écrit le texte, c'est pas si toi tu as fait une crasse à ton frère, si ton frère a quelque chose contre toi. Autrement dit, si lui, c'est peut-être lui qui est responsable de la zizanie, mais il se trouve dans un malaise tel, dans une amertume telle, que lui est mal à l'aise. Or, tu ne peux pas apporter ton don à l'autel si tu n'as pas restauré ton frère. Ce n'est pas dire fait justice, c'est dire restaurer son frère, lui avoir redonné cette possibilité, cette identité d'être lui-même, l'avoir fait ressortir de cette peur de la mort, cette angoisse qui serait trop forte et qui l'empêcherait justement de profiter ou de prendre conscience de la réalité de la rédemption qui est la communion des frères entre eux. Donc ce problème-là, très fondamental, de l'amertume qui règne, qui empêche une communion réelle, Jésus est obligé de le traiter de façon concrète, comme on dirait maintenant, par une praxis, en agissant, se mettant au pied des disciples, en faisant bien entendu ce qu'il ne voulait pas faire. Quand il y a une rivalité, personne ne prendra le balai, personne ne prendra la cuvette, personne ne fera la corvée, qui était là, une corvée de bonne compagnie, qui était de mettre les gens à l'aise. Quand quelqu'un, vous receviez quelqu'un, il avait marché, on lui donnait l'occasion de se laver les pieds, et puis une marque d'estime, c'était de le faire à la personne qu'on recevait. Or, c'est Jésus lui-même qui le fait. Celui qui n'a jamais cherché à commander. Celui qui n'a jamais cherché à prendre un poste de suprématie. Il nous est dit dans l'Épître aux Philippiens, et c'est là que nous voyons le sens, il n'a pas cherché comme un objet à dérober d'être égal à Dieu, quelque chose dont il fallait qu'il s'empare, parce qu'il n'avait pas besoin, lui, de boucher un manque, une angoisse de la mort, il l'avait accepté. Il n'avait pas besoin de boucher cette angoisse, il n'avait pas de désir à boucher, parce que son désir, c'était de faire la volonté de son Père. Donc il n'avait pas besoin de ça. Les disciples en avaient besoin parce qu'ils employaient encore comme nous toutes sortes de petits moyens pour tamponner leur angoisse et leur peur de la mort ou leur culpabilité. Donc Jésus leur montre qu'on peut se mettre au pied des autres, on peut servir et on n'en meurt pas. Parce que derrière le service, il y a la peur de mourir. C'est-à-dire, quand on dit qu'il faut faire très attention au discours, les psychanalystes sont toujours très avides d'expression. On dit « le ridicule tue ». C'est vrai, le ridicule tue. Il tue la personne. Et quand on emploie les mots, c'est à peine des métaphores. Un certain niveau de l'être, c'est vrai. On peut vivre le ridicule, une position d'infériorité, comme une destruction réelle de la personne. Et c'est ce que Jésus leur veut dire, dit, voyez, je le fais et je ne meurs pas. Alors, il n'est pas mort de ça. Et on comprend aussi tout le changement qu'a pu opérer cet exemple, et alors il leur explique ce qu'il a fait. Il le verbalise, non seulement il le fait, mais ensuite il le verbalise. C'est un mot qu'on emploierait dans notre langage moderne. Mais nous voyons Pierre qui a compris la chose. Dans le chapitre 5 de son épître, le premier épître de Pierre, il leur dit « Moi, soyez soumis les uns aux autres ». Vous compterez un jour, si ça vous amuse, le nombre de fois où Pierre emploie le mot « soumis » dans son épître. Soyez soumis, soyez soumis. Il n'a pas peur de le dire, parce que ça ne lui fait pas peur, ça ne lui fait plus peur. Il n'a pas l'impression ni qu'il se déconsidère, ni qu'il se perd, qu'il cesse d'être lui-même. Et non seulement au niveau de la hiérarchie, lui apôtre, les autres n'étaient pas apôtres, mais au niveau de l'âge, il dit, moi, un ancien parmi vous, moi, un ancien parmi vous, je peux vous dire ça, soumettez-vous les uns aux autres. Bon, voyez ce qui est de la transmutation, de la mutation du désir de puissance en tant que suppression au niveau d'un leurre ou d'un palliatif au niveau d'un manque. Maintenant, l'argent. Là, on pourrait faire toute une étude sur la fonction de l'argent. Mais il faut bien voir, sur le plan psychologique en général, disons psychanalytique du terme, que la fonction, l'argent a une fonction extrêmement variée et qu'elle est très liée à l'intégrité de la personne. Gagner de l'argent, perdre de l'argent, donner de l'argent, offrir de l'argent, faire des cadeaux d'argent, mesurer la hiérarchie des gens suivant la quantité d'argent qu'ils gagnent. Et manifestement, dans l'argent, il y a un processus de colmatage de l'angoisse. À travers l'argent, on assure ses vieux jours, on se protège de la maladie, éventuellement on se protège de la mort à travers les services de santé. Si bien que quelqu'un qui est riche, il n'a plus besoin de rien. Et on comprend pourquoi le Seigneur dit que si quelqu'un est riche, il aura de la peine à entrer dans le royaume de Dieu. Il n'a plus besoin de rien. C'est ce que nous voyons dans le chapitre 3 de l'Apocalypse, dans l'épître à l'Odyssée. Il y dit, tu dis que tu es riche, je suis vêtu, je n'ai besoin de rien. Or, quelqu'un qui a besoin de rien, autrement dit, qui a colmaté son désir, comme celui d'Ève, qui a colmaté son angoisse par ses petits moyens, c'est pas la peine ou c'est très difficile de lui prêcher l'évangile, il n'en a pas besoin. Et nous voyons donc que Jésus va s'attaquer aussi à ce leurre, à cette espèce de pansement de l'angoisse et de la mort, de plusieurs façons. Il va faire un exercice, encore il va utiliser la pratique, il va le faire faire un exercice à ses disciples. Il va les envoyer deux par deux, c'est dans Matthieu 10:10. Il leur dit, le royaume des cieux s'est approché, vous irez, vous prêchez, disant le royaume des cieux s'est approché, guérissez les infirmes, ressuscitez les morts, rendez nets les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne faites de provision ni d'or, ni d'argent, ni de cuivre dans vos ceintures, ni d'un sac pour le chemin. Et quand les disciples reviennent, ils lui font un compte-rendu de ce qui s'est passé. Et c'est intéressant de le voir, on ne lira pas le texte. Les disciples se réjouissent de ce que les démons leur sont assujettis. Autrement dit, on voit comment ils ont fonctionné. Ils sont partis sans argent, mais ils ont eu une compensation au niveau personnel. Ils ont joui d'un certain pouvoir. Et Jésus ne leur laisse pas l'illusion qu'ils ont un certain pouvoir. Il leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient asservis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est ça le vrai colmatage de la mort et de l'angoisse. Il leur laisse pas, même à ce niveau-là, il ne leur laisse pas l'illusion d'une victoire ou l'illusion d'un pouvoir. Et Et le résultat de cette propédeutique, de cet enseignement, c'est que quand Pierre, à la sortie du temple, je crois que c'est dans acte 3, verra le paralytique, d'une part nous voyons qu'il aura appris du Seigneur qu'on peut toucher un malade, c'est pas infamant, il tend la main vers lui, comme le Samaritain avait ramassé un blessé sur le bord de la route, il va le toucher, et puis il lui dira, je n'ai ni argent ni or. Il n'aura pas honte de dire, moi j'ai rien. Ça ne le gêne plus maintenant. Il ne vit pas la pauvreté comme une honte. Vous savez très bien que quand on n'a pas d'argent, on le cache. On n'aime pas être mal vêtu. On n'aime pas avouer qu'on a moins qu'un autre. On n'aime pas avouer qu'on manque d'argent. On vit ça comme une honte. Alors vous savez très bien que la honte, c'est la peur, c'est l'équivalent de la peur. Au noyau narcissique, c'est ce qu'on cache. On cache un manque, on cache une blessure profonde qui vous dévalue aux yeux des autres. L'argent en soi, ce n'est pas tellement important, mais on voit par là que c'est le signe de quelque chose qui touche vraiment la personnalité. Et alors c'est étonnant de voir Pierre qui dit « Je n'ai ni argent ni or », de le dire très tranquillement. Ça ne le gêne plus de dire qu'il est pauvre. Il n'a plus besoin de ça pour être important ou pour être tout court. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Il n'y a pas d'argent et d'or, mais il peut encore donner quelque chose. Et on a la même réaction chez l'apôtre Paul, vous lisez dans Philippiens 4, ça vaut la peine de le voir. Des gens qui n'ont plus besoin, qui n'ont plus à se faire de soucis à ce niveau-là. Et il leur dit, Philippiens 4 au verset 13, non, c'est pas ça. Non, au verset 11. Non que je parle des privations, car moi, j'ai appris à être content en moi-même dans les circonstances où je me trouve. Et c'est là où je voudrais essayer qu'on voit ensemble la différence qu'il y a entre, qui n'a peut-être pas été assez marquée quand on a parlé du sermon sur la montagne, ce côté un peu commandement, d'être pauvre, heureux les pauvres, etc., c'est souvent perçu comme un commandement. Or, pour le Seigneur, c'est jamais un commandement d'être pauvre, c'est peut-être une bénédiction, mais pas une bénédiction qui serait un ordre, une proposition, c'est une bénédiction qui est le résultat de ce qu'on n'ait plus besoin de ça pour être. Ce serait peut-être long, mais ce serait très intéressant de voir la fonction de l'argent dans la vie d'Abraham. Puis la fonction, disons, l'or dans la Bible, c'est un problème très intéressant. Nous voyons que c'est pas... Jamais, jamais dans la vie, le Seigneur vous demandera, écoute, jette ça, c'est pas bon pour toi. Mais il donne des choses nouvelles qui font que les objets anciens ne sont plus nécessaires. C'est comme quand on grandit, on n'a plus besoin de sa poupée, on n'a plus besoin de son train électrique, on n'a plus besoin de son ours qui est devenu un peu sale, on n'a plus besoin de ses objets. C'est ce que Winnicott, pour les psychologues qui s'intéressent à la question, appelle l'objet transitionnel. Et ça, nous en reparlerons demain à propos de la croissance. Mais enfin, je peux ouvrir une parenthèse tout de suite. Quand l'enfant grandit, le petit enfant, il y a un sevrage, il quitte sa mère. Et on ne quitte pas sa mère comme ça. On emporte des petits objets qui la rappellent. Alors ça peut être, avant de s'endormir, un mouchoir, un petit ours en peluche, enfin toutes sortes de petits objets, ou une poupée. Et ça s'appelle un objet transitionnel parce que c'est un objet qui n'est rien de précis et sur lequel on peut poser n'importe quel fantasme. Il peut tout être n'importe quand. Il remplace la mère, il remplace une situation, il remplace la maison, il remplace tout. Et on emploie souvent ces objets traditionnels qu'on appelle à tort des fétiches, mais en fait ce sont des objets transitionnels, parce qu'ils font passer de l'étape de dépendance totale de la mère, d'une personne, à une étape d'indépendance, une étape de sevrage, où on peut se passer de la personne parce qu'elle a été intériorisée. On part, l'enfance, il est un psaume qui parle, qui utilise justement cette métaphore, comme un enfant sevré près de sa mère. Qu'est-ce qui se passe dans le sevrage ? L'enfant peut quitter sa mère qu'il nourrit et qui est un simple distributeur d'affection et de nourriture et de soins et de confort. il peut désormais la perdre comme ça, mais il la retrouve comme personne. Il a appris à pouvoir s'en passer à l'extérieur parce qu'il l'emporte en lui-même. Il a constitué à l'intérieur de lui-même l'image de la mère, qui va le suivre toute sa vie. Comme l'image du père, on appelle ça des imagos, enfin Jung appelle ça des imagos, mais il y a une intériorisation de l'image qui s'opère. Et nous verrons l'importance de l'intériorisation progressive de l'image de la mère ou d'image du père dans la croissance. Le dernier problème que je voulais aborder rapidement, c'est celui de l'idéal de vie. On a tous dans la vie, je pense surtout dans au niveau de... Quand je pense à idéal, je pense à un mot psychanalytique qui est l'idéal du moi. On a tous une théorie ou une idéologie dans laquelle est représentée une structure idéale de fonctionnement des gens entre eux, une sorte de cosmos idéal, dans laquelle nous aussi on a un moi idéal, une position idéale. Alors là, on entre plus précisément au niveau de l'idéal religieux. Et on sait que l'idéal religieux, plus les gens pieux sont pieux, plus ils ont un idéal religieux. Et nous le voyons surtout quand on a une certaine distance. Nous ne voyons pas quand nous sommes dedans, mais nous le voyons à une certaine distance, et surtout chez les autres. Et un exemple qui nous permet de le saisir au vif, c'est l'histoire de Pierre avec Corneille. Et Pierre avait un idéal religieux, qui était un idéal de pureté, un idéal de séparation. Et là, contrairement à ce qui se fait, que le Seigneur fait dans d'autres domaines, il intervient presque... J'ai un thème que je vous soumets à la réflexion. Là, il n'y a pas de substitution. Là, il y a des visions. Et Pierre a la vision, une extase, dans laquelle il voit descendre du ciel un drap, une toile, dans laquelle il y a toutes sortes d'animaux. Et il entend l'ange ou l'esprit qui lui dit « Tu es mange ». Il dit « Ah, surtout pas, j'ai jamais mangé de ça. Je ne vais pas manger de ça. » Et il lui répète par trois fois « Tu es mange. Ce que l'Éternel a purifié, toi, ne le tiens pas pour impur. » Et là, au niveau de l'idéal, il y a un changement. Parce que l'idéal n'est pas au niveau d'une pratique, au niveau des actes. C'est au niveau d'une construction. D'une construction idéale au niveau de l'esprit. Et les choses qui se déroulent au niveau de l'esprit reçoivent une réponse ou une solution au niveau de l'esprit. Et il y a une transformation à ce niveau-là. Et effectivement, Pierre pourra, après la transformation de son système juif en un système beaucoup plus large qui est celui de la grâce de Dieu et de la grâce de Jésus-Christ, il pourra expliquer plus tard qu'il n'y a pas besoin de tout ça pour vivre. Il dira aux chrétiens qui s'inquiètent ou aux juifs qui s'inquiètent à propos des nouveaux convertis, il leur dit vous savez très bien que tout cet idéal-là, nos pères n'ont pas pu le porter. C'était un fardeau trop lourd pour eux. Et nous savons, nous, que nous sommes sauvés par la grâce, mais il serait bien qu'ils se gardent de fornication, c'est-à-dire de l'impudicité, et qu'ils se gardent du sang, et qu'ils se gardent des choses sacrifiées aux idoles. Et c'est tout. Et encore, dans ces indications-là, il y en a qui sont données pour ne pas offenser les juifs. Autrement dit, ce n'est pas des objets en soi, des arguments, enfin des ordres ou des pratiques religieuses, c'était des pratiques d'amour pour ne pas offenser les autres. Mais en elles-mêmes, elles ne semblaient pas avoir un sens fondamental. C'est parce que d'autres pourraient se trouver offensés. Nous voyons la même chose. L'idéal, on peut avoir un idéal religieux, mais aussi on peut avoir un idéal social. Et l'idéal social de Pierre, bien évidemment, c'était son idéal professionnel. Souvent, vous savez, on est tous pareils, où on est professeur, où on est quelque chose, mais on est toujours un petit peu autre chose que soi-même. Et on a des cartes de visite où c'est marqué dessus. Avec une grande, souvent, il y a beaucoup de choses. Et on aime bien être présenté sous un titre. Parce qu'évidemment, soi-même, on parlait du petit ver de terre tout nu, c'est ce qu'on ressent, si on n'est pas habillé avec quelque chose. Et la raison sociale de Pierre, c'était d'être pêcheur. Et il a de la peine à s'en séparer, et le Seigneur opère par, avant d'en faire un berger, parce que de pêcheur, il est devenu berger, paix mes brebis. Il d'abord lui dit, je te ferai pêcheur d'hommes. Donc il n'y a pas trop de bouleversement dans sa vie. Et le bouleversement est plus radical parce qu'à un moment donné, il aura à renoncer à ses qualités de pêcheur, à ce titre, parce qu'il y aura quelque chose de changé à lui profondément à la suite d'une dépression. Je ne sais pas si nous aurons le temps d'aborder ça, mais je voudrais juste en dire un mot sur la façon dont Pierre a changé. Donc sa personnalité a été remaniée. Donc il cesse d'être pêcheur et il devient apôtre de Jésus-Christ, qui n'était pas un titre très glorieux. Il vaut à tout prendre, il vaut mieux avoir un métier répertorié sur la rubrique des métiers plutôt que d'être esclave ou serviteur de Jésus-Christ. C'est pas dans le registre du commerce de l'époque. Et voilà ce qui s'est passé dans le remaniement de la personnalité de Pierre. Il a fallu qu'il passe par une dépression. Et une dépression, c'est toujours la perte d'un objet, un objet qui est lié à l'identité, à la personne. Et Pierre a perdu son idéal quand il a renié le Seigneur. On sait très bien qu'il est sorti dehors, il a pleuré. Les orientaux se laissent davantage aller aux manifestations émotionnelles, davantage que nous. Mais enfin, c'était un homme, il est sorti dehors, il a pleuré. Il avait quand même trahi son ami et son maître, déjà depuis de nombreux, qui était son maître depuis de nombreuses années. Et ça, c'était pour lui quelque chose de grave. Il s'était déshonoré, peut-être aux yeux de Dieu sûrement et de son maître, mais à ses yeux, à lui. Il valait plus grand-chose. Et il avait perdu précisément sa nouvelle raison d'être, qui était d'être l'ami de Jésus, le disciple de Jésus. Et quand Jésus ressuscite, c'est ça qui est intéressant, voyons ça dans l'évangile de Marc à la fin, il a dit, va vers mes disciples et dis-leur, vers mes disciples et Pierre. Autrement dit, Jésus envoie un petit message à Pierre en disant qu'il pense encore à lui. Il le mentionne personnellement. Et là, ce n'est pas une phrase générale, et je pense que ce n'est pas par hasard, c'est lié directement au fait que Pierre avait besoin de quelque chose de plus pour se récupérer. Matthieu 16, 7. Quand vous lirez le texte, d'ailleurs, on trouve ça que dans Marc, il dit, mais allez, dites à ses disciples et à Pierre, il s'en va devant vous en Galilée, là, vous le verrez, comme il vous l'a dit. Donc la restauration de Pierre, ce n'est pas une sorte de deuil qui se franchit automatiquement en disant on se console comme on peut, après tout, la nature humaine est faillible, mais il fallait aussi, pour qu'il récupère l'intégralité de ses facultés, son équilibre, il fallait que Jésus, d'une façon ou d'une autre, lui signifie, même avant de le voir, pour qu'il puisse l'affronter sans honte, sans avoir peur, lui disent qu'il pensait à lui. Dit à mes disciples et à Pierre. Bon, la conclusion de ces différents points, où intervient un remaniement de la personne, au niveau du changement des objets, un objet qui est remplacé par un autre, cet autre étant Jésus-Christ, nous avons vu que ce changement de stratégie dans la vie, il s'agit vraiment d'un changement de stratégie, se fait à la rencontre d'un Dieu vivant, d'un sauveur. Il ne s'agit pas d'un discours, il s'agit de la rencontre d'une personne vivante. Ce que nous jugeons d'habitude comme légitime, honorable, toutes les possessions de la vie, lorsque nous les analysons, en définitive, ce ne sont qu'un ensemble, un système ou un ensemble d'objets destinés à nous rassurer. En cela, on est comme tous les hommes. Des objets qui ont pour but de combler nos désirs et de faire un pansement à notre angoisse. Et c'est dans la mesure où il reste des lacunes qu'on peut ou bien en vouloir davantage d'argent, ou éventuellement se tourner vers Jésus-Christ. Et que dans ses relation avec ses enfants, avec ses disciples, le Seigneur et Dieu en général dans notre vie ne nous prend jamais quelque chose sans avant nous avoir donné autre chose qui le remplace. Et quand un chrétien, justement, là, on se pose toute la problématique de la dépression ou de la tristesse ou du manque chez les chrétiens, et quand ça apparaît, justement, pourquoi ? Et qu'est-ce qui manque ? Où est le trou ? Où est la lacune ? Où est la faille ? Et ça pose aussi le problème de comment s'y prendre pour réparer cette faille. Au niveau de la... Il y a un autre aspect, si vous voulez, corollaire de celui-là, c'est celui de la nécessité qu'il y ait un désir ou une attente. Et très souvent, Dieu s'arrange pour entretenir dans notre vie quelque chose que lui seul peut combler. Et là, je me réfère à un sujet dont j'ai déjà parlé l'année dernière, c'est la culpabilité de David. Dieu n'a jamais laissé à David construire un temple. Le temple, c'était une trop belle occasion de rendre service à Dieu et de combler cette espèce de culpabilité latente que lui attribue au sang, mais qui peut être la culpabilité de tout homme. Mais Dieu lui interdit, lui bouche cette voie de lui construire un temple. À vue humaine, ça aurait été excellent, c'était une bonne intention, c'était une bonne initiative, mais il lui laisse, en empêchant David de construire un temple, il lui laisse... avec ce désir non comblé, il le laisse avec sa culpabilité que lui seul pourra faire. Et c'est dans cette mesure-là qu'on comprend ce verset d'un psaume, je ne me souviens plus, je crois que c'est 146, où il dit « Que rendrai-je à l'Éternel pour qu'il de tous les biens qu'il m'a fait ? Je prendrai la coupe du salut. » Et s'il y a une solution, c'est dans un approfondissement des voies de Dieu pour lui. Et si nous avons une solution à nos problèmes, à nos dépressions, je dis ça très généralement, pratiquement c'est peut-être plus difficile à appliquer et à vivre, c'est dans un approfondissement du sens du sacrifice de Jésus-Christ pour nous, non seulement pour notre salut, mais au niveau de la complétude de notre personnalité. C'est tout ce que je vais dire.
Si quelqu'un vous dit que si quelqu'un dit je n'ai jamais fait rien de mal, est-ce une sorte de refoulement ou bien est-ce l'absence d'un sentiment de culpabilité chez certains gens?
Je pense qu'il faut jamais prendre les mots comme on les dit. Il faut se demander si la personne ne dit je n'ai rien fait de mal parce que effectivement en ce moment elle n'a aucun sentiment de culpabilité, ou si elle le dit pour se persuader qu'elle n'en a pas. Or, il est banal dans les cures, enfin, à ce niveau-là, on ne parle pas de culpabilité, on parle d'autre chose, encore que la culpabilité se traite à un autre niveau. Et quand une personne dit, voilà, je n'ai pas ci et ça, vous lui montrez la contradiction qui existe en ce qu'elle vous dit, à ce moment-là, et puis ce qu'elle vous raconte de sa vie. Elle dit, mais enfin, comment expliquez-vous cette contradiction-là ? Ça se voit dans les faits. Par exemple, un exemple de culpabilité, pourquoi prenez-vous tant de peine à vous protéger ? Par exemple, une personne qui dit « je ne me sens pas coupable » puis qui est toujours en courbe de « je vous en prie », etc. « ce que je vous ai fait mal », etc. J'ai dit, mais enfin, pourquoi avez-vous si peur de me faire mal ?
Dans l'histoire de David, vous avez interprété le refus de Dieu comme un genre de psychothérapie. Et ce n'est pas la réponse que Dieu donne pour justifier son refus, pourtant.
Je n'ai pas interprété ça comme une psychothérapie. J'ai interprété ça comme le fait que Dieu ne veut pas que sa culpabilité s'épuise par les petits moyens, qui est celui de lui offrir quelque chose, de lui construire quelque chose, d'être finalement non plus la créature, mais le créateur. C'est dans ce mouvement-là.
Mais ce n'est pas la justification que Dieu donne à son refus.
Pour comprendre ça, ce serait peut-être un petit peu long. Il y a trois récits. Il y a celui que donne Nathan, il y a celui que donne David et celui que donne Salomon. Et c'est en comparant ces trois discours qu'on comprend l'intention de David et finalement ce que l'intention de Dieu quand il l'a fait. Pouvez-vous aller plus loin et dire quelle était l'intention de Dieu d'après ce que vous avez compris ?
Il me semble que Dieu ne voulait pas que David construise son temple parce qu'il s'était sali les mains en faisant la guerre.
Il n'a pas parlé de sali, il a dit tu as versé du sang.
Oui, mais c'est...
Mais il a, justement, c'est ça qui est intéressant, il n'a jamais dit du sang de la guerre, c'est David qui ajoute ça, il a dit du sang. Or, le sang que David a versé, il a versé deux sortes de sang.
Ah oui.
Il a versé un sang dans la guerre parce que Dieu lui commandait de faire la guerre comme instrument de sa justice. Mais il y a un sang qu'il a versé qu'il aurait très bien pu s'abstenir de verser. C'était le sang innocent, celui du riz. Et je pense que ce sang a beaucoup plus pesé dans la balance, dans la culpabilité de David que le sang de la guerre. Mais lui préfère peut-être parler de celui de la guerre. Mais celui de la guerre ne l'a pas fait écrire de psaume. Par contre, celui du riz l'a fait écrire au moins le psaume 32 et le psaume 55. 51.
Pour David, le problème semble clair. Est-ce que ça serait le même problème qui est posé à l'apôtre Paul et l'écharde?
Je ne peux pas vous répondre comme ça parce que je ne sais pas trop quelle était l'écharde de l'apôtre Paul. J'ai jamais fait le rapprochement. Mais je crois dans la démarche de David, pour préciser, c'est la tentative de faire quelque chose à un certain niveau pour ne plus se sentir coupable, payer, donner une rançon. Alors qu'il est écrit dans un psaume, et c'est encore un psaume de David, « Nul ne peut en aucune manière racheter l'âme de son frère, il faut qu'il y renonce à jamais. » Or, David voulait lui procéder à travers offrir quelque chose à Dieu, comme il s'était offert quelque chose à lui-même. Il s'était construit des temples, des maisons, il va construire une maison à Dieu. Se méprenant même, là si vous voulez en plus raffiner la démarche qu'a fait David, il a transformé, Dieu lui dit, j'ai toujours habité au milieu des temples, au milieu du peuple, il veut faire de Dieu quelqu'un comme lui, qui habitera dans une maison, et s'il habite dans une maison comme lui, il pourra mieux lui parler, il y aura moins de distance, il pourra mieux régler ce problème-là. Puis il y a aussi la tendance de, quand Dieu est trop gênant, on l'enferme dans une église et on va le voir de temps en temps.
Si je ne me suis pas trompée dans vos notes, dans les notes que j'ai prises, vous avez dit que Christ ne prend rien sans avant donner quelque chose. Je voudrais savoir si c'est systématique et dans ce cas-là, pourquoi nous n'attendons pas à lâcher ce qui colmate chez nous.
Alors là, vous touchez à un autre problème, c'est celui du changement. On n'aime pas changer. Hein. C'est le problème même de la croissance. Les hommes ont beaucoup de peine, les enfants ont beaucoup de peine à quitter une situation pour en saisir une nouvelle.
Même si ça a été compensé auparavant.
Oui, il y a des difficultés de passage. Justement, oui. Un des problèmes de la névrose, c'est qu'on est resté attaché à ces vieux objets, on n'a pas voulu les lâcher.
D'accord. Et donc, je ne me suis pas trompée, Christ nous donne toujours quelque chose avant...
C'est mon impression, oui. Et puis d'après les textes qu'on a vus, ça semble être ça.
Non.
Hein? Avant ou en même temps, mais enfin, il laisse jamais de vide.